Ça, c'est mon autre casquette. Donc, en tant que chercheur universitaire, c'est qu'on avait fait un colloque en 2008 sur l'homme-machine dans la littérature avec une de mes collègues, Dominique Kuhn-Westerhoff. Et puis, suite au colloque, en fait, on avait décidé de publier les actes. Ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir avoir une perspective à la fois transversale, c'est-à-dire de partir de Descartes avec les premières conceptualisations du mécanisme, etc., qui culmine avec la maîtrise au 18e sur vraiment l'homme-machine et la disparition de l'âme, etc. Puis de montrer comment cette tradition, elle continue, elle perdure dans la science-fiction contemporaine. Donc c'est un ouvrage qui parle, en fait, en gros, qui va depuis le 17e siècle. On parle pas vraiment de Descartes, mais on commence au 17e, par exemple, avec la religieuse de Diderot, ok, plutôt 18e, mais on a quelques tout petits textes du 17e. Et puis après, on montre comment dans le 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, la thématique de l'homme-machine revient, récupérée, se découvre de nouvelles formes, comment la SF elle redynamise quelque chose sans pour autant être l'inventeur, c'est-à-dire qu'en fait la thématique de l'homme-machine c'est pas une thématique SF, c'est une thématique philosophique qui est propre à la modernité. Et puis en fait on a une quinzaine d'articles qui évoquent 15 pans en fait de l'homme-machine, et on finit avec le côté SF, c'est-à-dire avec trois articles qui sont beaucoup plus directement liés à des ouvrages de science-fiction. En l'occurrence, Damné de son espèce d'Eschbach, La proie de Crichton, et puis on a une étude sur le robot, en partant de, enfin, dans iRobot d'Asimov, mais aussi en montrant avec une étude sociologique comment les gens aujourd'hui imaginent leur robot chez eux, ce qui leur fait peur, ce qui leur fait pas peur. Et puis c'est plutôt dans un ouvrage qui permet de pouvoir balayer une thématique sur 500 ans à peu près d'histoire, des idées.
Sur cet homme-machine, on part de Descartes, enfin, vous partez de Descartes. C'était quoi ses idées à lui?
Y a cette idée chez Descartes assez flagrante, ça veut dire du mécanisme. C'est-à-dire en l'occurrence, bon, lui, il voit deux choses. On a l'âme et le corps, hein, donc l'âme, principe vital, spirituel, etc. Puis le corps, on est dans cette espèce on est juste après Vésale, donc on a la découverte anatomique, etc. Et le corps est considéré comme une machine. C'est-à-dire que chez Descartes, en fait, finalement, et d'ailleurs il le dit, hein, ce qui différencie un animal d'un humain, c'est pas le corps, c'est des espèces de pièces, de roues qui se... Le corps humain est considéré comme un ensemble de parties qui sont imbriquées les unes aux autres et qui sont mécaniques. Donc on peut en remplacer une, en remettre une. La seule différence qu'il voit entre l'animal et l'humain, c'est l'âme. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme cartésien, qui est donc qui développe en particulier dans les discours de la méthode, etc., c'est un peu l'origine de la science aussi, c'est-à-dire l'origine du réductionnisme. En gros, si tu veux étudier un phénomène physique, il faut que tu évites tout ce qui peut pas être soit mécanique, soit disons... expérimentable directement, et puis tout le côté spirituel, tu le mets de côté, et tu le mets à côté de l'investigation. Donc, on part de Descartes pour montrer qu'en fait, finalement, dans les questions qu'on pose aujourd'hui, par exemple sur le cyborg, ont-ils une âme, n'ont-ils pas une âme, on retrouve exactement les questions que se posait Descartes au XVIe siècle. C'est assez étonnant en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la SF invente pas autant que ce qu'on pense par rapport aux questions de l'homme-machine, et que ces grandes questions de l'âme, à quel moment est-ce que je cesse d'être un homme pour être une machine, sont des questions qui sont déjà posées, en tout cas qui sont déjà en filigrane chez Descartes, enfin 17e et pas 16e, et puis qui par contre trouvent des formes intéressantes aujourd'hui, c'est-à-dire avec le cyborg, l'homme-machine, le robot, l'androïde, etc.
Ça veut dire que ce sont exactement les mêmes interrogations aujourd'hui, rien n'a évolué sauf la forme?
Bon, non, ce qui a évolué, c'est qu'on a des vrais cyborgs aujourd'hui. Mais alors que chez Descartes, c'est encore une sorte d'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le paradigme est le même. C'est-à-dire qu'en fait, le paradigme de l'homme-machine qui naît au 17e, principalement, on est toujours un peu pris dedans, quoi. C'est comme si, d'ailleurs, je suis convaincu que si on interrogeait les gens, on se rendrait compte qu'il y a une grande partie d'entre nous qui pensons que notre corps, c'est une sorte de machine, comme ça, on peut remplacer les organes. Machin. Et puis qu'il y a une sorte de principe spirituel ou pas. Alors si on n'a pas de principe spirituel, on a plutôt la maîtrise 18e. Si on a encore un principe spirituel, on est plutôt Descartes. Puis que lui, il serait pas mécanique, on pourrait pas. Donc ce qui fait un être humain, c'est son âme. Et puis son âme, c'est un truc qui est pas lié à son corps. Mais une démarche purement holistique, type mon âme et mon corps ne font qu'un. Et donc dans mon organe, il y a mon âme, par exemple. Ça marcherait pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est pour le don d'organes, par exemple, parce qu'on peut supposer qu'enlever un foie à quelqu'un, c'est pas du tout quelque chose qui va toucher son identité. C'est très cartésien, ça. Alors que si on suppose qu'en touchant le foie, on enlève l'âme ou une partie de l'âme, alors on est plutôt dans des principes animistes ou holistiques. Et puis là, on n'est plus chez Descartes. Et donc, on essaie de montrer ça, comment en fait cette espèce de tradition, elle continue. Et que même si on pense être à la pointe du progrès, nos idées, elles, sont ancrées dans l'histoire et ont un passé qui est pas le même, mais qui, on voit déjà ces lignes de force tracées, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait « je refuse de donner mes organes parce que je pense que dans chaque partie de mon corps, il y a mon âme », on en rigolerait sûrement beaucoup, quoi. En tout cas, on aurait de la peine à entendre ça vraiment. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaie de montrer. Alors, bien sûr, là, je caricature un peu, mais c'est un peu cette idée-là, de voir comment est-ce que le mécanisme a fait qu'on a une conception de l'homme qui a changé, en fait, avec ça, et où on peut dire, ben voilà, j'enlève une partie de moi, c'est pas grave, parce que c'est qu'une partie. C'est comme si je change une roue d'une machine, ça va pas enlever la machine, ça fait pas de la nouvelle machine une autre machine.
Il y a des courants comme le transhumanisme ou des gens qui veulent du mécanique.
Mais ce sont des fous, les transhumains. faut pas que je dise ça, je sais qu'il y a des gens qui croient que c'est bien. Le transhumanisme, c'est... Je dirais que c'est encore pire parce que ça se réclame pas d'une tradition philosophique réelle, en fait. C'est-à-dire que ça inaugure. Mais y a en tout cas un truc qui est assez clair avec les transhumains, c'est cette idée de la convergence technologique. Et cette idée, en tout cas, qu'on pourrait modifier... Je ne sais pas si on est vraiment dans le mécanisme, on est plutôt dans les biotech. Donc, on est plutôt dans le fait de manipuler le génome, ce n'est pas grave. Mais maintenant, c'est peut-être moins... Avec le transhumanisme, c'est peut-être plus l'humain qui est une machine, mais c'est son code. C'est-à-dire que l'ADN peut être remplacé, on pourrait changer des gènes, on pourrait manipuler les gènes, ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire que le résultat final serait un autre être, mais pas moins bien ou mieux. Et chez les transhumains, on a vraiment cette idée de... Finalement, si je maîtrise les briques de Lego... Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas les transformer? Tout comme avant, si je maîtrise l'anatomie, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas transformer l'humain? Donc c'est peut-être je dirais que c'est le même paradigme, mais qui s'applique à une autre échelle. On est plutôt à l'échelle du génome, mais plus tellement à l'échelle, disons, de la physiologie humaine, quoi. C'est pas remplacer un organe, c'est trafiquer, hein. D'ailleurs, les transhumains attendent le post-humain, parce que les transhumains ne sont pas des nouvelles humanités, mais ils cherchent à créer celui qui dépassera l'humain. Qu'ils attendent de tous leurs vœux, apparemment. Je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce que ce n'est pas en fait un gros fiasco économique, mais en tout cas, à la base, le transhumanisme cherche plutôt ça, quoi. Donc on est peut-être plus dans un... Descartes n'aurait jamais voulu qu'on fasse dépasser l'espèce humaine. Pour lui, on était on était les enfants de Dieu, en fait, quand même. Dans le transhumanisme, on a une sécularisation de ces idées-là, et donc on se retrouve avec quelque chose où il faut faire disparaître l'humain, parce qu'on peut créer un être qui est beaucoup mieux, qui n'a pas de poils, ça ne sert à rien... Qui n'a peut-être même plus besoin de se reproduire, parce que ça ne sert à rien non plus, puis ça crée beaucoup de problèmes. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, dans le transhumanisme, on a un truc très, très extrême, en fait. Qui est plus, à mon avis, qui se réclame plus de l'utopie que de Descartes. Je serais intéressé de voir dans quelle mesure les discours transhumanistes ne sont pas des discours d'abord utopiques, où on imagine un monde parfait, avec une paix universelle. Je crois que dans le rapport NBIC de Rocco et Bainsbridge, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée de création d'un monde parfait. Où tous les humains seraient égaux, parce que tous les humains pourraient, de manière égalitaire, modifier leur génome pour créer l'être qu'ils aimeraient être. Enfin, c'est une sorte de narcissisme postmoderne, en fait, en gros. Ouais.
Dernière question, tes projets à toi, justement,
toujours dans ces champs de recherche.
J'ai un espèce de plan avec un éditeur qui s'appelle ActuSF. Non, je déconne. Non, projet de recherche, c'est difficile. Donc moi, j'enseigne à l'université, donc mes projets de recherche directs, c'est mes enseignements. Là, je fais un cours avec un de mes collègues sur l'altérité dans l'ASF. L'ASF comme littérature de l'altérité. Puis on prend trois biais, un biais linguistique, un biais énonciatif, puis un biais, disons, des mondes créés, quoi. Et je pense qu'on va écrire un livre sur l'altérité en ASF, mais justement pas l'altérité thématique, quoi. Les extraterrestres, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais plus comment l'ASF décale notre univers, quels sont les procédés littéraires, un truc un peu chiant comme ça qui va pas intéresser grand monde, mais qui nous intéresse pas mal. Et puis sinon, j'aimerais bien commencer à écrire j'ai un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, mais j'ai toujours écrit zéro ligne. C'est que j'aimerais bien écrire quelque chose sur l'utopie, avec une approche un peu différente des approches qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'aimerais pas, l'approche politique m'intéresse pas plus, l'approche philosophique non plus, mais vraiment une approche plus littéraire. Je pense que comment unifier l'utopie et la dystopie, en fait, en gros. Et puis, un autre bouquin qui m'intéresserait, ça serait une histoire littéraire de la conjecture, c'est-à-dire comment créer, non pas cette catégorie que je sais qui est assez valorisée aujourd'hui, qui s'appelle la littérature de l'imaginaire, qui est absurde. Moi, j'ai toujours considéré que la notion de littérature de l'imaginaire c'est un peu un pléonasme parce qu'une littérature sait de l'imaginaire. Mais je voulais plutôt travailler sur la littérature conjecturale. C'est comment on a, à la Renaissance, créé un type de raisonnement logique qui s'est incarné dans les formes littéraires, qui était la projection vers un ailleurs, en fait. Et une projection rationnelle, c'est plus un rêve, c'est plus un délire, c'est plus un état second ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment une projection rationnelle qui crée des univers rationnels. Et j'aimerais voir quels sont les différents moments de cette espèce de littérature qu'on appelle aujourd'hui la SF, qui s'appelle l'utopie avant, qui est passée par les voyages imaginaires. Et plutôt que de multiplier sans fin les sous-genres, de peut-être trouver une sorte de phénomène historique qui a accompagné la modernité en fait, depuis sa naissance, depuis le 16e jusqu'à aujourd'hui, et puis qui peut-être permet de mieux comprendre pourquoi on a beaucoup d'espoir dans la science, dans la médecine, pourquoi il faut que tout soit hygiénique plutôt, pourquoi est-ce que... on attend la nouvelle humanité, enfin des choses comme ça. Ça m'intéresserait, ça me paraît impossible à faire, je ne suis pas sûr que je le ferais, mais c'est en tout cas une piste qui m'intéresse à creuser en tout cas.